Eh bien, mes amis, ce soir, en me tenant devant le Seigneur, j'ai reçu une parole que je dois vous lire dans ce 8 août 1982, et elle rentrera dans le thème « Vivre dans la présence de Dieu ». Ce texte se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8e, au verset 42e, c'est une parole de Jésus lui-même, qui disait aux Juifs qui l'entouraient, comme s'il vous disait, cela à vous ce soir, si Dieu était votre Père. Vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Et pourquoi disait-il cette parole aux Juifs? Ces Juifs lui avaient dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Bien. Alors, répond Jésus, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de lui que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Je lis maintenant dans la deuxième épître aux Corinthiens. Au chapitre 11e. Une parole de Paul que je fais mienne pour cette soirée. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais vous me supportez. Car je suis jaloux. Jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Puis, au verset 14e, l'apôtre, parlant de certains hommes qui prêchaient l'évangile, disait: ce sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres du Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Que Dieu bénisse sa parole et qu'elle trouve le chemin de tous nos cœurs. Mes amis, à première vue, il semble que la plupart parmi vous croient que Jésus-Christ est mort sur la croix pour expier leurs péchés. En observant le comportement de plusieurs, il m'a semblé qu'on pourrait penser que quelques-uns parmi vous ont été convertis par la méthode des quatre lois spirituelles ou par une de ces techniques modernes employées par des prédicateurs dits évangéliques. Prédications qui produisent des conversions sans repentance. Des baptêmes sans renoncement à soi. Une communion à la table du Seigneur sans discipline. Vous connaissez ces méthodes. Ces quatre lois, elles ont quelque chose de juste. On vous dit: croyez-vous que Dieu vous aime ? Ce soir, si je vous demande, est-ce que vous croyez que Dieu vous aime? Pourquoi est-ce qu'il ne nous aimerait pas? On nous a toujours dit que Dieu nous aimait, puisque Dieu est amour. Au fond, bien sûr qu'il nous aime. Alors, vous cochez avec un crayon. Oui, vous croyez que Dieu vous aime. Alors, passons à la seconde loi. Reconnaissez-vous que vous êtes un pécheur? Qu'en est-il ce soir? Vous reconnaissez que vous êtes un pécheur? Vous pourriez vous lever ici et dire: moi, je n'ai jamais péché, non, je ne suis pas de ces gens-là. Ce n'est pas très humiliant de reconnaître qu'on est un pécheur, tout le monde est pécheur. Alors, on l'admet, seconde petite croix. Alors passons à la troisième. Croyez-vous que Jésus-Christ est votre sauveur personnel? Jusqu'à maintenant, ben, on nous a toujours dit que c'était le sauveur du monde. Ben, je fais partie du monde. Donc, si vous allez au fond des choses, ben, bien sûr, s'il est le sauveur du monde, il est le sauveur des individus aussi. Alors, donc, il est mon sauveur personnel. Allons-y pour une troisième croix. Je voudrais savoir si cette troisième croix est celle du bon larron ou de l'autre. Alors maintenant, on passe à la quatrième, parce qu'il faut que vous partiez d'ici avec une assurance. La Bible dit, alors on a tout dit, quiconque croit en lui a la vie éternelle. L'affaire est dans le sac. Vous êtes sauvés. Et puis, il y a la date. Signé. Alors, maintenant que vous êtes sauvé, vous pouvez le dire. Vous savez la date de votre salut. Vous pouvez dire, moi je suis sauvé depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 4 ans, depuis 8 ans, je suis un sauvé. C'est le salut Nyaka. Vous connaissez le salut Nyaka? Nyaka croire. Nyaka. Salut Nyaka. Considère Jésus, tu seras sauvé, c'est elle. Salut Nyaka. Mais qu'est-ce que cela change dans votre vie, votre salut Nyaka? Qu'est-ce que cela a changé dans votre comportement quotidien? Qu'est-ce que cela a changé? Oh, vous faites partie d'une église. Vous avez maintenant une étiquette. Ou vous avez changé d'étiquette. Vous avez une communauté. Et puis là, vous avez une activité. Pour le Seigneur. Pensez donc, maintenant que vous êtes sauvés, on va vous garder. Alors, un des meilleurs moyens pour vous garder, c'est de vous donner une petite responsabilité. Ça vous tiendra. Ça vous obligera à venir aux réunions. Établies. Mais je vous le demande, vous avez une activité pour le Seigneur? Mais le Seigneur, lui, est-ce qu'il a une activité dans votre vie? C'est là la grande question. Est-ce que vous laissez le Seigneur avoir une activité dans votre vie? Vous me dites que vous avez une activité pour le Seigneur. Voyez-vous, j'ai peur. Que plusieurs parmi vous aient été les victimes de Satan, le plus grand évangéliste des temps modernes. C'est Satan. Ah oui, quand on parle des grands évangélistes, le super, vous aimez ces termes, le super évangéliste des temps modernes, c'est Satan. L'adversaire de Dieu, qui dans nos derniers temps, avant que paraisse l'Antichrist, se transforme lui-même, pour nos milieux dits évangéliques, en ange de lumière. Il n'a pas changé depuis qu'il séduisit Ève, dans ce jardin de délices qu'était Éden. Aujourd'hui, dans notre société de consommation, il est toujours le même séducteur. Mais en même temps, il est ce meurtrier Et ce menteur, dès le commencement, celui qui a dénoncé Jésus aux Juifs très religieux, observateurs de la loi, prétendant à l'orthodoxie, Satan, pour combattre le dessein éternel de Dieu, a compris que lui aussi, il allait se faire prédicateur. Un grand prédicateur et un grand séducteur. Lui, connaît les Écritures. C'est un théologien, pas un petit théologien. Un grand théologien, sans avoir été à une école biblique. Il connaît les Écritures. Et il va multiplier les citations bibliques dans ses prédications pour que vous soyez bien sûrs que c'est une prédication que vous pouvez recevoir. C'est truffé de versets bibliques. Vous savez, le diable a osé parler des Écritures à Jésus lui-même lors de la tentation au désert. Alors, comment ne ferait-il pas aujourd'hui de même avec ceux qui viennent écouter l'Évangile, puisque celui qui allait apporter cette bonne nouvelle a rencontré Satan et que Satan a essayé de le détourner du vrai but en lui citant les Écritures. Satan sait que la prédication de la croix et la puissance de Dieu pour quiconque croit, il le sait. Alors Satan se décide lui aussi à prêcher la croix. Ah, on est rassurés, nous les évangéliques. Il prêche la croix. C'est une prédication vraiment fondamentaliste, pensez-le. Oui, le diable est très fondamentaliste. Ça ne me rassure pas quand on me dit qu'on est fondamentaliste. Le diable aussi. Alors, Satan se décide à prêcher la croix. Mais la croix qu'il présente n'est pas la vieille croix. Comprenez-le bien. La sienne, c'est une croix moderne. Ce n'est plus un instrument de torture, c'est un ornement que vous pourrez même porter dans un grand décolleté. Deux saints et une croix. La croix au milieu des saints. Connaissez les ruses du diable. Assez près du cœur, je l'ai, la croix. La croix, oh, vous savez, que ce soit la croix dite catholique ou la croix huguenote, c'est bien la même chose. Un ornement. Un bijou que l'on portera en décoration. J'ai aidé une fois, dans une conférence que je faisais au milieu des bonnes sœurs, qui avaient toutes des croix encore sur le côté. Je leur ai dit, mes sœurs, avez-vous déjà songé à ce que signifie la croix? C'était le gibet, c'était l'instrument de torture des Romains. Un instrument de mort. Est-ce que c'est cela que ça signifie pour vous? Est-ce que vous porteriez aujourd'hui une petite guillotine en miniature? Ou bien une potence? La croix, vous levez les yeux, elle est sur le sommet des clochers d'église. Elle est aussi sur le sommet des montagnes. Elle est à peu près dans toutes les villes au Québec. La croix. La nouvelle croix, elle dit, venez prendre. Venez prendre. J'ai quelque chose à vous donner. Je vous donne le salut, un salut gratuit. Figurez-vous, c'est une affaire. N'irez pas en enfer. Vous serez sauvés. Venez prendre. Alors, un être humain normalement égoïste agirait d'une manière absolument contraire à sa nature s'il refusait. Et il y a une façon de présenter la croix qui nous oblige en quelque sorte, avec notre nature égoïste, à accepter. C'est alléchant, cette offre. Ça peut faire mon affaire. Alors, il est bien clair que celui qui s'approche de cette croix, bien qu'il se servira de la croix pour son profit personnel. Tandis que la vieille croix, elle ne dit pas « venez prendre ». La vieille croix, elle dit « venez donner ». C'est vrai ou c'est faux? La nouvelle croix, c'est « venez prendre ». La vieille croix, la croix de Golgotha, la croix du calvaire, elle dit « venez donner ». Et pour un temps, elle passe totalement sous silence ce que l'individu pourra recevoir à part un baptême dans la mort. Voilà ce que la vieille croix vous dit. Venez donner, abandonne ta vie. Et pourquoi cette vieille croix exige-t-elle autant? Bien, simplement parce que dès le commencement, Dieu avait résolu que cette vie chrétienne serait fondée sur ce seul principe. La vie nouvelle n'est pas vécue pour soi, mais pour Dieu. La vie nouvelle n'est pas vécue pour soi, mais pour Dieu. À la croix prend fin ma vie. Et une vie nouvelle commence, et cette vie nouvelle, elle est pour qui? Elle n'est pas pour moi. Elle n'est pas pour mes satisfactions personnelles. Cette vie nouvelle, elle est entièrement pour Dieu. Et c'est cela que je vais comprendre. Elle est entièrement pour Dieu. Alors que dans la pensée de Dieu, la vieille croix devait être le symbole de la mort et de la séparation de l'ancienne vie que nous avons héritée d'Adam, la croix moderne que Satan substitue à l'ancienne, elle n'a pas pour but de mettre à mort le pécheur, mais simplement de lui donner une autre orientation, une nouvelle direction. Ah oui, il y a quelque chose de juste, hein. On dit que la conversion c'est un demi-tour, je l'ai dit moi aussi. Alors on a une nouvelle orientation, mais attention, la croix moderne, elle vous fait emprunter un mode de vie plus moral, plus agréable, parce qu'au fond, vous n'étiez pas si glorieux de vivre dans les péchés grossiers. Et puis vous saviez bien qu'avec la drogue, vous continuez à vous détruire, à aller plus vite vers la mort. Puis vous savez bien aussi que l'alcool, eh bien, ça vous amène à une cirrhose du foie, et puis à toute espèce de tragédie. Alors se convertir quand même, ben, ça change notre direction. Puis, au lieu d'aller à la taverne, au bistrot, on va à l'assemblée, on va à des réunions, on a nos soirées aussi occupées, puis on a de nouveaux amis, et peut-être plus intéressant que ceux que nous fréquentions avant. Donc, ça va. Mais, si même j'ai changé de direction, eh bien, mon attachement à mon moi est resté intact, et j'ai toujours mes ambitions. Je suis toujours centré sur moi-même. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette croix nouvelle? Bien, à celui qui a une personnalité dominatrice, elle dit, viens affirmer ta personnalité au service du Christ. Alors, fais vite une école biblique, ou que sais-je encore, et puis, ta personnalité, toi qui as une personnalité, tu peux devenir quelqu'un dans le monde évangélique. On peut t'employer. Alors, tu as une personnalité qui en impose, qui en type bien, eh bien, viens imposer ta personnalité, et viens l'affirmer au service du Christ. C'est ainsi qu'on voit tant de heurts de personnalité parmi les serviteurs de Dieu. À l'homme pieux, la croix nouvelle vient dire, viens t'énorgueillir dans le Seigneur. Qu'un-t-il pieux? Viens t'enorgueillir dans le Seigneur. Les gens sauront que tu es pieux. C'est quelque chose. Puis qu'est-ce qu'elle dit encore? Ah, à l'animateur ou à l'amateur d'émotions fortes, elle déclare, viens goûter aux transes de la communion fraternelle. Tellement bon la communion fraternelle. On va pouvoir s'embrasser entre frères et sœurs en Christ. On va pouvoir prier en meule. Vous savez, on fait des prières en meule maintenant. Oh, c'est bien. Puis on va pouvoir chanter en se tortillant, un petit peu comme ces grands artistes du monde. Et on va prendre un petit peu leur mode, ils ont tellement bien réussi. Ils ont eu des fonds. Et nous, nous voulons des fonds pour Jésus-Christ. Voilà pourquoi il y a si peu de disciples. Parce qu'on fait des fonds. La nouvelle croix, elle fait des fonds pour Jésus-Christ. Et voyez-vous, le message moderne, il suit le courant du jour. Il s'adapte au goût et à la mentalité de ses auditeurs. C'est ainsi qu'on a le rock évangélique. Tous les festivals possibles. Voyez-vous, la vieille croix, si vous lisez la Bible avec un peu de sérieux, elle n'est pas disposée à faire des marchandages avec le monde. Croyez-le. Moi, mon cœur est brisé parce que je vois les ravages de cette prédication de la nouvelle croix. Voyez-vous, pour la chair orgueilleuse d'Adam, la vieille croix a été la fin du voyage. Pour moi, à la croix, j'ai compris que ma vie, telle que je voulais la conduire, était passée. Qu'une vie entièrement nouvelle allait commencer et que cette vie, elle n'était pas pour me satisfaire, mais pour être au service du Seigneur. Dans quelque profession que je sois appelé à travailler. C'était la fin de ma propre vie. La vieille croix, elle a exécuté la sentence imposée par la loi au Sinaï. Le salaire du péché, c'était la mort. La vieille croix vous conduit à cette mort. Tandis que la nouvelle croix, elle n'est pas opposée à la race humaine. Puis, elle est un agréable compagnon. Si on la prend du bon côté, je dirais qu'elle est même la source de quantité de sains amusements et d'innocents plaisirs. Elle laisse vivre notre Adam sans intervenir. Notre raison de vivre, c'est toujours la même. Nos satisfactions. On continue à aller et venir pour son plaisir, peut-être dans d'autres lieux. On trouve sa joie maintenant à chanter des petits chœurs et à regarder des films religieux au lieu de chanter des chansons grossières et de boire beaucoup d'alcool. Ou de s'adonner à la drogue. Quelqu'un m'a dit maintenant, ma drogue, c'est les messages évangéliques. Ma drogue. Pensez que c'est une drogue, la parole. Alors, ce que je dis, c'est que le caractère dominant de cette croix nouvelle est toujours la recherche du plaisir. Bien que les distractions se situent sur un plan intellectuel ou moral plus élevé. Alors, il suffit d'observer les convertis de cette nouvelle croix pour se rendre compte que leur centre d'intérêt n'a pas changé par une union avec le Christ dans sa mort. Leur centre d'intérêt n'a pas changé. Et c'est toujours eux-mêmes, ils sont toujours préoccupés d'eux-mêmes, même de leur faute, de leur misère. Leur centre n'a pas changé. Quand on a affaire avec la vieille croix, eh bien là, notre moi est crucifié et prend fin. Et ce qui est le plus alarmant pour moi, c'est que même des prédicateurs sérieux emploient, je veux dire inconsciemment, je l'espère, cette nouvelle technique. on entend parler de technique pour l'évangélisation. Alors, si la nouvelle croix est devenue si populaire, on peut être sûr qu'elle a paru sans se faire annoncer et s'est insinuée sans être découverte. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont des victimes de ces gens qui se croiront convertis et puis qui un jour ne pourront pas tenir et auxquels on prêchera comme doctrine la perte du salut. C'est tout ce qu'on leur réserve. C'est tout ce que le diable réserve après avoir séduit les âmes, leur avoir fait croire à un petit salut, eh bien, même ce petit salut, qui n'a rien à faire avec le si grand salut de Dieu, comme j'ai essayé de vous le montrer, et comme je reviendrai sur ces questions-là, du grand dessein de Dieu, du si grand salut de Dieu, qui n'est pas ce petit salut que l'on prêche chaque jour, maintenant, à grands frais, que l'on entend dans toutes sortes d'émissions, à la télévision ou à la radio. Bien oui, vous dites, mais c'est des messages évangéliques. Oui, 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 truffés de versets bibliques, mais qui doit tout de suite amener à une espèce de conversion rapide. Et il faut tout de suite qu'on écrive. Ah, chers amis, c'est dur de vous prêcher ainsi. J'aimerais mieux disparaître que le Seigneur me retranche. Si vous pouvez penser un seul instant que j'essaye de détruire les autres. J'essaye de vous mettre en garde contre une des subtilités de l'ennemi, le grand prédicateur moderne. Celui qui fait les dénombrements au sujet des conversions. Qui est-ce qui a poussé David à faire un dénombrement ? Satan se leva pour éprouver Israël. Et il mit à David de savoir combien de sujets il avait. Ce n'est pas notre travail. Toujours la gloire de l'homme. Voyez-vous, cette nouvelle croix en surface, elle a l'air d'utiliser le vocabulaire de la vieille croix de Golgotha. Mais les ressemblances sont superficielles, alors que les différences sont vraiment fondamentales. La nouvelle croix, elle propose de vivre pour le moi. Le moi sanctifié. Le moi qui est arrivé à un dépassement. Alors que la vieille croix vous dit que le moi est crucifié. Il n'est jamais question d'un dépassement. Il est question d'un abaissement, d'une crucifixion. La vieille croix, elle montre le chemin céleste d'une vie vécue pour Dieu. La croix nouvelle, elle vous dit, mais tu peux continuer. Au contraire, le monde, il a besoin de toi. Et tes talents que tu as, tu dois les employer pour le monde. Mais dans un autre sens, afin de le gagner au Christ. Tu employais tes talents loin du Seigneur, Alors maintenant, emploie-les pour le Seigneur. Je m'arrête ici. C'est terminé. Je vous demande d'avoir un moment de prière. Et en cette soirée du 9 août 1982, je voudrais lire dans l'Épître aux Romains, au chapitre 16, un texte, toujours dans le cadre de notre grand thème, vivre dans la présence de Dieu. Et ce sera, en quelque sorte, la suite de notre rencontre d'hier soir. Verset 17e du chapitre 16 de l'Épître aux Romains, les versets que j'ai lus précédemment se trouvent, pour ceux qui voudront les relire, dans le chapitre 55 du prophète Ésaïe. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point le Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des saints. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Une fois encore, nous venons d'entendre la parole de Dieu, cette parole qui est la vérité et qui peut nous sanctifier. Qu'elle trouve le chemin de nos cœurs et de nos consciences, qu'elle nous recrée et qu'elle nous fasse vivre. Mes bien-aimés, si nous vous avons parlé du grand dessein de Dieu à l'égard de l'homme, sa créature, de son conseil éternel arrêté dès avant la fondation du monde, je dois vous entretenir aujourd'hui sur la personnalité qui crut pouvoir s'opposer au plan merveilleux d'amour de Dieu. Il s'agit de celui que Jésus dénonçait aux Juifs comme étant le diable. C'est le texte que j'ai lu hier, le père du mensonge, le meurtrier dès le commencement, impérissable. Nous bénissons Dieu de ce qu'il a fait pour Michel. Et nous savons que cette œuvre commencée, il l'achèvera, il la rendra parfaite, qu'il ira devant lui, qu'il aplanira les choses élevées, qu'il brisera les barres de fer et qu'il cassera les portes d'airain. Aujourd'hui, même les théologiens nient l'existence du diable, L'apôtre Paul nous dit dans son épître aux Corinthiens que nous ne devons pas ignorer ses desseins, que nous ne devons pas nous laisser circonvenir par Satan. Dieu a un dessein. Et nous avons essayé de vous montrer les grandes lignes de ce dessein éternel de Dieu, dessein d'amour pour l'homme. Mais il y a quelqu'un qui a cru pouvoir s'opposer au dessein de Dieu et devenir l'adversaire de Dieu, alors qu'il était lui-même une de ces créatures qui avait eu l'existence par la puissance même de Dieu. Tout ce que Satan voudrait, c'est qu'on ne croit pas à son existence. Et je pense qu'il était très réjoui de ce qu'un théologien bien connu en Allemagne, un père jésuite, ait écrit ce livre « Liquidation du diable ». Maintenant, c'est fini, hein. Vous n'allez plus croire à l'existence du diable. Tout ce que le diable désire, c'est qu'on croit qu'il n'existe pas, parce qu'il pourra mieux travailler. Nous ne serons plus sur nos gardes. Vous croyez encore au diable, nous dit-on, mais vous êtes retardés. Le diable, ça n'existe pas. Eh bien, si vous lisez les Écritures, vous constaterez que Satan se trouve mentionné dans les premières pages de la Bible sous la forme du serpent qui séduisit Ève. Genèse chapitre 3. Je n'ai pas besoin de vous lire ce chapitre. Vous savez comment la tentation d'Adam et d'Ève eut lieu par le serpent. Quand vous continuez votre lecture, vous voyez que dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 21, ce verset que je vous ai déjà cité hier soir, il est dit que Satan se leva contre Israël en poussant David à faire le dénombrement du peuple sur lequel il régnait. Vous me direz, mais enfin, quel mal y a-t-il à faire le dénombrement d'un peuple? Est-ce qu'il n'y avait pas, au temps de Moïse, il n'y avait pas eu un grand dénombrement? Oui, c'est vrai. Mais qui avait demandé ce dénombrement? C'était Dieu lui-même. Alors Moïse obéit et on fait le dénombrement du peuple. Mais David n'a pas les mêmes motifs. Lui, il fait ce dénombrement pour savoir sur combien de personnes il règne. Quel est le nombre de ses sujets? Il recherche sa propre gloire. Et il n'écoute pas les conseils de ses plus proches qui lui disent, mais ne fais pas une chose comme celle-là. Non, il s'entête et vous savez qu'il amène un terrible fléau sur le peuple d'Israël à cause de son orgueil. Une plaie terrible frappe les habitants de Jérusalem. Et si vous continuez la lecture de l'Écriture, vous arrivez au livre de Job. Et dans le livre de Job, 14 fois, vous retrouvez le nom de Satan. Et nous apprenons que ces créatures se présentent devant Dieu lors de ces grandes séances qui ont lieu dans le ciel quand tous les anges qui sont des esprits administrateurs employés envers ceux qui doivent hériter du salut viennent rendre compte à leur créateur, à Dieu, de leur ministère, de leur service. À époque régulière, apprenons-nous, les anges viennent en une sainte convocation devant le Seigneur. Et nous apprenons que Satan lui-même, il vient aussi, car il est une créature, il n'est pas un Dieu. Il est une créature qui ne peut pas faire simplement tout ce qu'il veut. Dieu tolère qu'il fasse certaines choses, mais il dit jusqu'ici, mais pas plus loin. Et Dieu parle à Satan en lui demandant d'où viens-tu, Satan. Alors il dit de courir ça et là sur la terre et de m'y promener. Et Dieu lui demande alors, tu as considéré mon serviteur Job, l'as-tu remarqué? Il n'y en a pas un comme lui, parfait, droit, craignant Dieu, se retirant du mal. Et c'est alors que Satan insinue au fond, oui, je l'ai bien vu, mais tu l'as béni de toute manière. Tu lui as donné de grandes richesses, une famille heureuse, alors ce n'est pas pour rien qu'il te craint. Tu l'as environné d'une haie de protection. Mais touche un peu à ses biens, et tu verras s'il ne te maudit pas en face. C'est un hypocrite. Il te craint uniquement parce que ça fait son affaire. Tu l'as béni. Mais s'il commence à être éprouvé, il te maudirait en face. Alors Dieu relève le défi et permet à Satan de frapper Job dans ses biens, dans ses richesses et dans ses enfants. Et puis, vous voyez là toute la succession de misères qui tombe sur Job. Vous connaissez ce livre et je ne m'en vais pas vous le résumer. Mais Satan est vraiment un menteur et un meurtrier. Et il est appelé à l'heure, comme nous le verrons, l'accusateur des frères. Satan est une réalité. Après le livre de Job, vous arriverez dans les prophètes, et je ne vous cite que un ou deux textes, je pense spécialement au prophète Zacharie, vers la fin de l'Ancien Testament, au chapitre 3, vous verrez de nouveau Satan qui se tient en présence de l'Éternel pour accuser le grand sacrificateur Josué que l'on voit revêtu de vêtements sales. Et l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Et Satan était à sa droite pour l'accuser. Ah, il connaît bien nos vêtements sales. Josué, l'Éternel dit à l'ange, ôtez les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fait. Je dis, qu'on mette sur ta tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Satan était là, hein? Mais l'ange de l'Éternel était là. Et c'est lui qui dit, ôtez ces vêtements sales. C'est pas Josué qu'il s'en est débarrassé. On les lui a ôtés. Laissez-vous faire par Dieu, je vous l'ai dit plusieurs fois. C'est lui qui fait le travail. Ôtez les vêtements sales. Et puis, revêtez-le d'habits de fer. Et c'est cela qui se produit, si vous vous laissez faire par le Seigneur. Le diable, oui, est là pour nous accuser, mais l'ange de l'Éternel est là. Et nous l'avons dit au début de ce camp, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. L'ange de l'Éternel est là. Maintenant, quittant l'Ancien Testament, nous ouvrons nos Bibles dans les premières pages du Nouveau Testament et nous voyons Satan dès les premières pages cherchant à tenter Jésus au désert. Jésus n'a pas encore commencé son ministère, il vient d'être baptisé par Jean et immédiatement il y a cette rencontre avec Satan qui a osé s'attaquer au Seigneur lui-même, qui a osé essayer de détourner le Seigneur de sa mission. Lui qui venait pour que le plan initial de Dieu, ce plan conçu dès l'éternité, se réalise, ce plan dont je vous ai parlé. Dieu, avant l'existence du monde, a eu une pensée dans son cœur. Vous avez eu une place dans son cœur, il vous a connu à l'avance, il vous a préconnu et il vous a prédestiné avant l'existence du monde, avant votre existence à vous, il vous a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Et c'est là qu'il y a eu une opposition quand Dieu, comme nous le verrons tout à l'heure, a révélé devant toutes les créatures angéliques ce qu'il allait faire en créant cet homme et quelle mission il donnait aux anges pour les fils des hommes. Oui, Satan sait très bien que celui qui commence ce ministère sur la terre est son vainqueur, mais il ose essayer de détourner Jésus de la mission qu'il veut accomplir pour son Père. Parce que ce que veut Jésus, c'est que le dessein éternel du Père s'accomplisse pour les hommes. Ce que veut le Fils éternel, ce n'est pas de rester le Fils unique, mais c'est d'avoir avec lui des frères, d'avoir d'autres enfants pour son Père, qui désire des adorateurs, qu'il adore librement, mais en esprit et en vérité. Et il vient pour les chercher. Et vous savez comment Satan a été vaincu, comment le Seigneur a triomphé de toute tentation. Mais souvenez-vous toujours que Satan a cité des textes bibliques au Seigneur. Alors même qu'il essayait de le détourner de son ministère, il venait avec la parole, et c'est des textes qu'il citait, mais isolés du contexte, et Jésus lui répondait, oui, c'est vrai qu'il est écrit cela, mais il est aussi écrit, et c'est toujours cela. On vous cite des textes, puis vous vous arrêtez à ce texte, vous dites, mais c'est magnifique, c'est un texte biblique, c'est une vérité, oui, mais si vous l'isolez, ça peut devenir une fausseté. Il faut voir ce texte dans l'ensemble de l'Écriture. Parce que sans cela, on est perdu. Et c'est ça qui fait ce pullulement des sectes. On s'accroche à un verset biblique, on a une pensée, on cherche dans la Bible quelque chose qui confirme notre pensée. Au lieu de nous laisser corriger par l'Écriture, on cherche un appui dans les Écritures pour justifier notre pensée. Et c'est ça qui est faux. C'est ça qui est archi faux. On a raconté cette histoire d'hindou qui avait dans une foire une grande tente sous laquelle se trouvait un éléphant. Mais cet éléphant se trouvait justement dans la nuit complète. On ne pouvait pas le voir. Alors on faisait entrer les visiteurs et puis on leur demandait de toucher cet animal et de dire ce que c'était. Ils n'avaient pas vu l'éléphant. Alors un a touché la trompe. Puis il a dit, c'est un tuyau. C'est un tuyau. Et il est parti en étant sûr que c'était un tuyau qu'il avait touché. Et puis, un autre a touché une oreille.
Et il l'a bien palpé, puis il a dit, mais ça c'est un éventail, d'après ce qu'il sentait. Hein. L'oreille de l'éléphant, il a pensé que c'était un éventail. Et puis, un autre, lui, il a touché une jambe, et il a mis ses bras autour d'une jambe, puis il a dit, mais c'est une colonne, n'est-ce pas? Et il était sûr que c'était une colonne. Cette bête-là, c'est une colonne. Bon. Et puis, un autre, il a mis la main dessus, comme ça. Et puis, il a dit, mais c'est un trône. C'est un trône, cet animal. C'est un trône. Eh bien, chacun a dit quelque chose de vrai. Hein? Si vous touchez la trompe seulement, eh bien, ça ressemble à un tuyau. Et si vous touchez l'oreille, ça peut ressembler à un éventail. C'est aussi une espèce de vérité. Et puis, la jambe, ben, les jambes d'un éléphant, ça peut paraître une colonne. Et puis, le dos, eh bien, c'est assez plat. J'y suis déjà allé sur un éléphant, je sais comment c'est aussi. Eh bien, on a l'impression d'être assis sur un trône, en quelque sorte. N'est-ce pas? Mais, au lieu de séparer tout cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut réunir. Faut réunir sans cela. C'est une erreur. Un éléphant n'est pas une colonne, un éléphant n'est pas un tuyau. Bien sûr qu'il a un tuyau, qu'il a une trompe, mais ce n'est pas que ça. Alors, c'est ça qui est tragique, parce que dans les sectes, chacun a sa vérité, et puis pense qu'ils sont entièrement, eux, dans la vérité. Et bien souvent, ils ne communient avec les autres que sur leur point. Ils ne parleront jamais d'autre chose. C'est leur point qui est juste et ils n'entrent en communion qu'avec ceux qui sont d'accord sur leur point à eux. Et puis le reste, ils le mettent de côté. Alors faisons attention à cela. Jésus a dit, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Maintenant, si vous continuez cette étude, pour savoir si vraiment Satan existe selon les Écritures, bien vous verrez dans le livre des Actes des Apôtres qu'au cours du ministère de Jésus, eh bien, ce qu'il a fait spécialement, c'est de délivrer des hommes et des femmes qui étaient possédés par un pouvoir satanique. Dans les Actes, chapitre 10, verset 38, dans sa prédication qu'il fait chez Corneille, l'apôtre Pierre nous dit que Jésus est allé de lieu en lieu faisant du bien, délivrant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance. Et comme nous l'avons vu, quand Jésus était sur la terre, les chefs religieux de son peuple sont allés jusqu'à attribuer la puissance qu'il avait à Satan, qu'on appelait Belzébuth. Et si vous lisez encore ces évangiles, vous trouverez que Satan n'est pas seulement appelé le diable dans les évangiles, Belzébuth, mais aussi l'homme fort, l'ennemi qui ravit la semence, comme nous l'avons vu dans la parabole du semeur, ou qui sème l'ivraie parmi le froment, dans le chapitre 13 de Matthieu. Et Jésus l'appelait, comment lui? Le prince de ce monde. Et il nous a montré aussi comment Judas fut finalement possédé par lui. Il est dit que Satan entra en lui. C'est quelque chose. Il a été 3 ans disciple de Jésus et il ne s'est jamais jugé d'une tendance. C'était laquelle? L'amour de l'argent. Il le savait. Il ne s'en est jamais jugé. Et un jour, son péché l'a trouvé. Jésus disait, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Satan ne pouvait pas trouver une tête de pont dans le Seigneur. Tandis que, quand il est venu vers Judas, il savait qu'il pouvait trouver quelque chose. Il y avait quelque chose en lui. C'était l'amour de l'argent. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, même si ça vous a un peu secoué, acceptez d'être secoué, passez par la crise. Et puis ensuite, quand cette crise est passée, bien vous êtes beaucoup plus fort. Il faut accepter de passer par certaines crises, se remettre en question, non pas pour douter de son salut, mais pour être plus fort, plus sûr que l'œuvre que Dieu a faite dans nos cœurs est une œuvre certaine et véritable, que nous ne sommes pas le jouet simplement de nos émotions. Alors n'ayez pas peur de ces crises qui vont vous amener certainement plus loin et justement à vous juger d'une chose que peut-être vous ne voulez pas reconnaître et qui est pourtant une réalité. Jésus a appelé donc Satan le père du mensonge et le meurtrier dès le commencement, et pour Jésus, c'est là qu'il nous montre l'origine du mal. Le mal, selon Jésus, il est sorti du cœur de cet être qui s'appelle le diable. Le mal qui n'avait pas d'existence propre, le mal qui n'est pas éternel, le mal, eh bien, c'est cet être qui s'appelle le diable qui en a fait une réalité. Le mal, dirions-nous, n'était qu'une possibilité, mais n'était pas une réalité. Celui qui en a fait une réalité, c'est l'être qui a dit non à Dieu. C'est celui qui est appelé Satan. Voilà, ça ne peut peut-être pas vous satisfaire, mais c'est l'explication que Jésus nous donne au sujet du mal. Il nous montre que l'origine du mal s'est trouvée dans le cœur de cet être appelé le diable, père du mensonge. Dans les épîtres de Paul, après que vous aurez parcouru les actes et que vous verrez que Ananias, par exemple, a été inspiré par Satan, il est dit que c'est Satan qui a rempli son cœur. Et pourtant, c'était un disciple, Ananias. Je ne dis pas qu'il a été perdu, non, mais il a dû mourir. Il a été retranché parmi les vivants. Pour quelle raison? Parce qu'il a menti au Saint-Esprit. Mais qui est-ce qu'il a fait mentir au Saint-Esprit? C'est Satan. Comment, dit l'apôtre Pierre, Satan a-t-il pu remplir ton cœur? Ah, mes amis, il faut veiller à cela. Et quand vous découvrez une tendance qui n'est pas à la gloire de Dieu, mettez-la dans la lumière, apportez-la au Seigneur. Mais ne laissez pas ces choses dans votre cœur. Appelez-les par leur nom et jugez-vous-en. Et le Seigneur vous bénira et vous délivrera. Et à la fin du livre des Actes, dans le dernier témoignage de Paul, nous voyons qu'il nous dit que dans la vision qu'il a eue sur le chemin de Damas, le Seigneur lui a dit qu'il l'avait choisi pour annoncer l'évangile aux païens et aussi pour les amener à passer de la puissance de Satan à Dieu. Tant que nous ne sommes pas convertis, nous sommes sous la puissance de Satan. Et même une fois convertis, eh bien, si nous jugeons les choses comme le monde en juge, et si nous regardons ce qui se fait dans le monde pour imiter le monde, eh bien, notre inspiration, elle n'est pas neutre, notre inspiration vient de Satan. Tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais aux choses des hommes. Mais à Pierre l'apôtre, le Seigneur lui dit, arrière de moi, Satan, tes pensées sont aux choses des hommes. Alors, laissons-nous sonder. Dans ses épîtres, je souligne cela, Paul mentionne 10 fois, sous le nom de Satan, cet être dont nous parlons, et 5 fois sous le nom de diable, 1 fois il l'appelle le Dieu de ce siècle, et une autre fois, comme nous l'avons vu hier, l'ange de lumière. Celui qui se transforme en ange de lumière. Mais il l'appelle aussi le serpent qui séduisit Ève. 2 Corinthiens 11, verset 14. Et dans toutes les épîtres de Paul, et vous pouvez étudier ce sujet, il est question des ruses du diable. Éphésiens 6, 11. Il est question à plusieurs reprises des pièges du diable. 1 Timothée 3, 7. Il est question aussi de ses déguisements, 2 Corinthiens 11, 14, de ses empêchements. Il nous crée des obstacles à certains moments, 2 Thessaloniciens 2, verset 9. Et il est aussi question de sa paternité. Paul ne l'envoyait pas dire quand il s'adresse à un magicien et lui dit « Fils du diable ». Et Jésus lui-même disait aux Juifs de son temps, « Vous avez pour père le diable. » Et sa puissance, cette puissance de Satan, elle est soulignée par l'apôtre Paul. Puis vient l'épître aux Hébreux. Au chapitre 2, au verset 14, nous apprenons que c'est Satan qui avait la puissance de la mort, et que le Seigneur Jésus, par sa venue, a anéanti Satan, qui avait la puissance de la mort. Et il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie tenus dans la servitude. Et celui qui avait la puissance de la mort, c'était Satan. Et Jésus est venu pour vaincre Satan. Vous allez plus loin, Jacques nous invite à résister au diable. Et s'il n'existait pas, nous n'aurions pas besoin de résister à un être imaginaire. Résister au diable. Et qu'est-ce qui se produira? Il fuira de vous. Hein. Mais il faut que vous lui résistiez. Résistez, non, Satan. Vous n'avez pas à capituler. C'est non à Satan. Là, vous pouvez dire carrément non. Mais vous savez bien ce qu'il vous suggère. Non, Satan. Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Pierre nous dit aussi que notre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Alors nous avons vu que le Seigneur campe autour de ceux qu'il craigne et les arrache au danger, mais le diable est là aussi et il rôde. Et je pense bien que nous avons éprouvé aussi cette présence de Satan qui rugissait et qui aurait voulu nous faire beaucoup de mal, non seulement hier, mais aujourd'hui. Mais le Seigneur est le plus fort, le Seigneur est là, le Seigneur est là. Ensuite, vous arrivez aux épîtres de Jean. Et au chapitre 3 de la première épître, Jean souligne que celui qui pêche, il est du diable. Que le diable pêche dès le commencement. Et que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Alors, réfugiez-vous dans le Fils unique, et c'est lui qui mènera le combat contre Satan. Car il est dit qu'à la croix, dans l'épître aux Colossiens, Jésus a triomphé de toutes ses puissances sataniques. Nous aurons l'occasion de le voir dans les prochains jours. Et Jean, dans son dernier chapitre de sa première épître, appelle encore Satan, de quel nom? Le malin. Le malin. Ou le mauvais, selon une traduction différente. Et il nous dit que le monde entier gît dans les bras du malin. Le monde entier est vu comme reposant dans les bras de Satan. Alors, vous comprenez pourquoi Jésus dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc il doit y avoir une séparation. Et il est dit une chose tellement merveilleuse dans le chapitre 5 de la première épître de Jean, que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et que Satan ne le touche pas. Ce n'est pas nécessaire que vous soyez touché par Satan. Si vous êtes né de Dieu, eh bien vous vous gardez vous-même. Et comment est-ce que vous vous gardez vous-même? En vous étant abandonné au Seigneur. Jude, dans la dernière épître que nous avons dans le Nouveau Testament, et qui est de Jude, il nous montre Satan qui a osé disputer le corps de Moïse à qui? À l'archange Michel. Alors, oui, à l'archange Michel, je fais pas un jeu de mots, mais si Satan a été contre l'archange Michel, vous comprenez bien qu'il peut être contre nous, les hommes. Il a osé s'attaquer à plus grand que l'archange Michel. À qui? Au Seigneur lui-même. Alors, vous devez être sur vos gardes et vous ne devez pas ignorer les desseins de Satan. Il sait qu'il ne peut pas vous avoir dans l'éternité malheureuse. Il sait que vous êtes donné au Seigneur. Alors, tout son travail, c'est d'essayer vraiment de vous enlever votre joie présente ou de détruire votre témoignage par toutes sortes de manquements pour que vous n'ayez pas de couronne, au moins, et que vous soyez malheureux sur la terre. Il est menteur et meurtrier. Il ne peut pas supporter de voir un chrétien joyeux. Alors, il cherche à l'attrister de toutes sortes de manières. Mais personne ne doit vous ôter votre joie quand vous êtes dans le Seigneur. Alors, vous finirez par l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, qu'est-ce que vous verrez? Que Satan est mentionné à plusieurs reprises et qu'il porte quel nom? Au chapitre 12, il est appelé le grand dragon, le serpent ancien, appelé diable et Satan, celui qui séduit toute la terre et qui est appelé encore l'accusateur des frères, qui se tient devant Dieu jour et nuit. Et comment peut-on le vaincre? Eh bien, il est dit que eux l'ont vaincu, les croyants, par la parole de Dieu et par le sang de l'agneau et par la parole de Dieu. C'est comme Jésus qui dit « Il est écrit », eh bien nous aussi, quand nous résistons au diable, nous allons avec la parole de Dieu. Et si vous revenez dans l'Ancien Testament pour connaître un peu ce que pouvait être ce Satan, il y a deux textes tous les théologiens mettent en avant. C'est le texte que l'on trouve dans le prophète Ézéchiel au chapitre 28e et puis un autre texte qu'on trouve dans le chapitre 14 d'Ésaïe au verset 12. Dans Ézéchiel, il est question du roi de Tyr. Mais on sent bien que derrière le roi de Tyr se projette une autre image, celui qui est appelé le chérubin oint, celui qui a été séduit par sa grande beauté et qui n'a pas persévéré dans la perfection dans laquelle il se trouvait. Et l'on y voit là l'origine de Satan, comme aussi dans le chapitre 14, d'Ésaïe au verset 12, quand il est question dans ce chapitre 14 d'Ésaïe, nous lisons juste le texte, c'est au sujet du roi de Babylone, hein? Et lui aussi, celui qui est appelé le fils de l'aurore, il est dit de lui, « Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. » Et nous voyons là la chute du roi de Babylone
Mais derrière ce roi de Babylone, nous apprenons aussi qu'il y a cet être extraordinaire, Lucifer, le fils de l'aurore. Et maintenant, si nous allons dans Job au chapitre 38e, nous apprenons, et c'est Dieu lui-même qui parle, que quand il a créé la terre, après avoir créé les cieux, et tous les anges qui s'y trouvaient, Dieu a créé la terre. Et il est dit que tous les anges éclataient de joie et célébraient la grandeur de Dieu. Et on peut penser que c'est à ce moment-là, devant ces anges qui célébraient les œuvres de la création, que Dieu a révélé son dessein éternel, ce plan dont on a essayé de vous parler. Dieu avait dans son cœur la création de l'homme. Et il révèle aux êtres célestes qu'il va créer un être au bonheur duquel il va travailler et qu'il prédestine à être semblable à l'image de son fils. Jusque-là, Lucifer, le fils de l'aurore, celui qui aurait été le chef des anges, donc était le plus haut placé après le fils de Dieu. Mais il apprend que l'homme que Dieu se propose de créer est prédestiné à être semblable au fils de Dieu. Donc, plus haut que lui. Donc, plus haut que lui. Et il apprend que les anges auront comme mission de servir l'homme. Oh, ça, il ne peut pas admettre ça. Lui, qui était le chef des anges, lui, qui avait toute une activité extraordinaire, s'abaisser à servir cet être que Dieu veut créer, il s'oppose à la création de l'homme. Il devient l'adversaire de Dieu et c'est ainsi que le mal a pris naissance, selon l'ensemble des Écritures. À quel moment est-ce qu'il y a eu opposition à Dieu? C'est au moment où Dieu révèle à ses créatures célestes son plan au sujet de l'homme. Quelqu'un dit non. Et ce quelqu'un, c'est un ange, c'est le chef des anges. Il s'oppose à Dieu, mais on ne peut pas s'opposer à Dieu. Il a voulu détrôner Dieu, il a voulu prendre sa place, et ce fut sa chute. Et toute l'activité de Satan, maintenant vous pouvez le comprendre, sera contre l'homme, puisqu'il ne peut rien contre Dieu. Il va essayer de s'opposer à ce que Dieu réalise son plan. Et il est là en Éden pour détourner l'homme de l'arbre de vie, afin que l'homme n'arrive pas à la gloire de Dieu. Et il y réussit, hélas. Mais quand le Seigneur chasse Adam et Ève, nous vous l'avons rappelé, de sa présence, eh bien, et qu'il juge aussi le serpent, il fait une promesse de miséricorde au couple déchu, et ce qui a sauvé Adam, c'est de croire à cette promesse. La postérité de la femme, dit-il au serpent, t'écrasera la tête et toi tu la blesseras au talon. Vous connaissez bien ce passage, c'est ce qu'on appelle le protévangile, où la promesse est faite qu'un jour Satan serait vaincu. Le serpent serait vaincu. Par qui? Évidemment, pendant des siècles, on a dit par Marie. Or, vous pouvez prendre n'importe quelle Bible approuvée du magistère de l'Église. Il est bien mis, même en note, que c'est la postérité de la femme. C'est pas la femme, c'est pas Marie qui a écrasé la tête du serpent, c'est son fils. C'est Jésus qui a écrasé la tête du serpent, mais en même temps, le serpent l'a blessé au talon. C'est une image, justement, une annonce de la croix où Jésus a été blessé dans son humanité. Le diable a pu atteindre le Seigneur dans son humanité seulement, mais il a été vaincu parce que en entrant dans la mort, comme Jésus l'avait prédit, il a lié l'homme fort, il a pillé ses biens,
et il est ressuscité. Mais ressuscité, ayant accompli une œuvre qui nous justifie, qui remet l'homme en contact avec Dieu, bien, que fera Satan? Satan, ne pouvant pas empêcher cette œuvre de la rédemption qui rétablit le plan de Dieu qui va maintenant de nouveau s'accomplir, que va-t-il faire? Il va s'attaquer aux chrétiens et essayer de détruire l'image de Dieu en nous. C'est pourquoi vous avez tant de luttes, vous avez tant de combats. Satan ne peut pas vous supporter, il ne peut pas supporter qu'un homme vive dans la présence de Dieu. Et il fait tout pour vous éloigner de cette présence constante. Alors, vous serez sur vos gardes et vous ne vous laisserez pas circonvenir par Satan. Et nous allons désormais, connaissant notre ennemi, connaissant ses tactiques, connaissant sa stratégie, nous allons veiller et nous ne nous laisserons pas prendre à ses pièges et nous allons vivre avec la vie et les ressources d'un autre, de celui qui pour nous est mort et ressuscité. Voyez-vous, je dis pour terminer, un chrétien n'est pas un homme qui a une vie changée, c'est un homme qui a une vie échangée. Comprenez-vous? Nous n'avons pas une vie changée, nous avons une vie échangée. Il a pris la nôtre, le Seigneur Jésus, et nous avons pris la sienne. De sorte que maintenant, et c'est ce que nous allons comprendre, nous vivons et nous avons à vivre avec la vie d'un autre. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et c'est vrai. Et c'est sacré. Et ce que nous vivons dans la chair, nous le vivons dans la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Nous allons prier. Ô Dieu, nous voulons te bénir parce que nous savons que rien ne pourra anéantir ton dessein bienveillant. Mais nous voulons prendre conscience de ce combat cosmique, de Satan qui s'oppose à la réalisation dans le cœur de chacun de nous de tes dessins. Et nous voulons suivre ta parole. Nous voulons nous laisser enseigner par elle, nous laisser corriger. Et connaissant quel est notre ennemi, quel est celui qui voudrait nous troubler, quel est celui qui voudrait nous faire perdre l'héritage, nous faire perdre la jouissance de la vie du trône, nous voulons marcher, Seigneur Jésus, caché en toi, afin que Satan ne puisse pas nous toucher. Nous savons qu'il ne peut pas te toucher, ô Jésus, car tu as triomphé de lui. Tu as été crucifié, mais tu es ressuscité. Et tu nous as pris en toi, et tu nous as déjà emportés au-dessus des puissances spirituelles de méchanceté, où tu es assis dans les lieux célestes, et nous sommes assis en toi, dans les lieux célestes, au-dessus de ces puissances. Donne-nous donc de mener le combat de dessus le trône, en étant assurés ainsi que déjà nous avons l'avantage et la victoire, et que nous ne traitions plus avec Satan, mais que nous lui résistions, et que nous le voyons fuir de nous. C'est la grâce que nous te demandons pour nous tous en te priant de nous donner une nuit de repos, une nuit de paix, une nuit dans ton amour. Amen.